On est aujourd'hui le jeudi 13 Adar Rishon, on est aussi le 13 février. Et on commence notre cours de parasha, parasha Kitissa. La parasha Kitissa, comme on le sait, est une parasha qui est extrêmement importante. C'est la parasha de la faute du veau d'or. Un cours a déjà été consacré à cette parasha cette semaine, vous pouvez le trouver sur le site. Et c'est bien sûr, comme on vient de le dire, une parasha extrêmement importante parce que nos maîtres, dès le départ, et on va voir, il y a effectivement différentes allusions dans le texte lui-même, mais dès le départ nous préviennent qu'il faut aborder la faute du veau d'or avec le même sérieux, la même
solennité.
Que l'on, c'est pas important, c'est pas grave, que l'on aborde la faute de Adam, c'est-à-dire la première faute. Nos maîtres disent que la faute du veau d'or par rapport à Israël est l'équivalent de la faute de Adam par rapport à l'humanité. Déjà donc une correspondance absolument incroyable, parce que bon, apparemment, on ne l'aurait pas vu, on ne doute pas du fait que la faute du veau d'or est une faute extrêmement importante, significative, qu'elle contient des messages extraordinaires tant pour nous que pour l'humanité tout entière, dans la mesure où on le sait, le peuple juif et l'histoire sainte sont le microcosme de l'histoire globale, de l'histoire de l'humanité tout entière. Le peuple juif est le laboratoire à l'intérieur duquel s'expérimente finalement tout ce dont l'humanité a besoin. Et c'est la raison pour laquelle, comme dans n'importe quel laboratoire, avant de trouver véritablement la bonne formule et le bon médicament, on fait plein d'erreurs, il y a des éprouvettes qui sautent, etc. On se trompe, on se tâche, on se brûle. Et il faut des années de travail jusqu'à ce qu'on trouve enfin le médicament qui va soigner le monde. Exactement de la même manière, le peuple juif est le laboratoire à l'intérieur duquel se font toutes les expériences en miniature, avec aussi toutes les catastrophes, les machines qui explosent, les chimistes qui sont brûlés, certains même sont punis parce qu'ils font des erreurs. Mais tous ces chimistes-là travaillent finalement pour le salut du monde. Quand on va enfin trouver le médicament, le monde sera bien content que finalement un petit peuple a pris tous ses risques et tous ses coups pour lui. Quoi qu'il en soit, tout ça on le savait. Donc on n'a pas de doute que la faute du veau d'or, encore une fois, est une faute qui contient un message extraordinaire. Mais aller jusqu'à dire que cette faute-là est la répétition, l'équivalent dans l'histoire au niveau d'un peuple, et l'équivalent de la faute de Adam Harishon, ça nous amène à un niveau de perspective, de vision, qui est tout à fait différent, et c'est ce qu'on va essayer à notre petit et humble niveau de comprendre. Alors bien sûr, si nos maîtres nous disent que la faute du veau d'or est liée à la faute de Adam Harishon, donc il faut forcément remonter à la source pour comprendre la rivière. Et quelle a été finalement la faute de Adam Harishon? Alors bien évidemment, si on en parlait pendant des millénaires, ça ne suffirait pas, puisque comme elle contient tout et que c'est une histoire racontée par la Torah, donc elle est forcément infinie, mais à notre niveau, et c'est ce que je veux reprendre pour aujourd'hui, la faute du veau d'or, comme on le sait, est la faute du faux messianisme. La faute de Adam, pardon, est la faute du faux messianisme. Qu'est-ce que j'entends par faux messianisme? C'est surtout au niveau des secrets de la Torah, le Ri HaKadosh et tous ceux qui expliquent très 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 profondément les choses que l'on trouve, ces enseignements absolument révolutionnaires et merveilleux. Nos maîtres nous expliquent que finalement, ce n'est pas par hasard, comme vous le savez, et combien de fois on l'a expliqué, que le Nahash, le serpent en français, en hébreu Nahash, a la même valeur numérique que Mashiach. On parlait hier du Mashiach, on parlait avant-hier du Mashiach. Nahash a pour valeur numérique Mashiach. Alors bien sûr, on est tellement choqué, tellement étonné, tellement surpris de voir que le maître du monde, pour définir le mal, puisque c'est un symbole, bien sûr, il n'y avait pas de serpent qui parlait, mais pour définir le mal, le maître du monde utilise un mot que nos maîtres s'empressent d'expliquer comme étant une allusion au Messie, au Mashiach. On est choqué. Qu'est-ce que le Messie, qu'est-ce que le Mashiach fait dans un serpent? Et donc, on a l'habitude d'expliquer à un premier niveau, ce qui n'est pas complètement faux, c'est que pourquoi porte-t-il la Gematria Mashiach? c'est à cause du principe d'une chose et son contraire. Ça veut dire qu'il s'oppose au Mashiach, il s'oppose à la délivrance finale, et d'une certaine manière, Mashiach et Nachash ont la même valeur numérique, comme pour dire que l'un est Zelu ou Matze, c'est les deux antagonistes qui vont finalement lutter l'un contre l'autre, la force messianique et la force nachashique, la force serpentique, qui s'opposent durant toute l'histoire. Et pour bien nous faire comprendre que l'un est l'équivalent de l'autre, mais dans le bien et dans le mal, on trouve dans la Torah un mot, un nom pour le représenter, Nachash, qui a pour valeur numérique, encore une fois, Mashiach. Ce premier niveau d'explication est extrêmement juste, mais nos maîtres vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ils expliquent que ce n'est pas seulement pour nous faire comprendre que Nachash, valeur numérique Mashiach, le Nachash vient s'opposer au Mashiach. Ils veulent nos maîtres nous expliquent que ça va beaucoup plus loin que ça. Dans le mot Nachash, qui a pour valeur numérique Mashiach, nos maîtres nous expliquent qu'on nous révèle aussi la manière dont le Nachash va combattre le Mashiach. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de la substitution. Le phénomène de la copie qui finalement se présente comme un original et fait croire qu'il est un original au point que les gens vont l'acheter. Comme c'est une copie, ça peut aussi être vendu moins cher, donc ça peut être vendu beaucoup plus. Les gens vont s'imaginer qu'ils ont un original entre les mains, mais finalement ils n'ont qu'une copie. Et le jour où l'original va se dévoiler et que tout le monde va se rendre compte qu'effectivement c'est l'original, ben, tous ceux qui ont acheté, et ils sont nombreux, tous ceux qui ont acheté une copie vont se retrouver avec rien dans les mains. Et donc encore une fois, nos maîtres expliquent qu'il y a deux manières de combattre quelqu'un. Tu peux le combattre dans le sens, toi tu es blanc et moi je suis noir, ou toi tu es noir et moi je suis blanc, toi tu es droite et moi je suis gauche, toi tu es lumière et moi je suis obscurité, etc. Donc c'est-à-dire que les différences sont bien bien établies, et c'est, on appelle ça, que le plus fort gagne. Que le plus fort gagne, c'est ce qu'on appelle dans la chassidout, itkafia. Ezeu gibor, akovesh et titzro. Qui est le fort en ça alors? J'ai rien, non? Donc, on avait presque oublié que tu existais. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, dommage, les caméras ne sont pas pour toi, on verra un beau jeune homme bronzé arriver. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que signifie itkafia? Itkafia, c'est en araméen, mais ça vient du mot hébreu lichbosh ou lichpot. Ça veut dire quand le bien et le mal sont clairement définis et clairement différents, donc automatiquement le combat, c'est que le plus fort gagne, c'est un bras de fer, et celui qui gagne va être kovesh ou va être kofé l'autre, va le conquérir et va le soumettre. Ça, c'est une forme de combat. Maintenant, cette forme de combat, c'est la forme de combat la plus facile. Parce que, ayant ton ennemi face à toi, tu le vois, tu l'identifies, ben, il est fort, ben, sois fort toi aussi. Et que le plus fort gagne. Maintenant, il y a une manière beaucoup, beaucoup plus sournoise de combattre un ennemi, c'est finalement de se faire passer pour lui. C'est ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière la cinquième colonne. Ça a toujours existé, enfin c'est très très vieux, bien que la cinquième colonne n'est pas si vieille que ça, ça remonte, je crois, si je ne me trompe pas, à la guerre en Espagne, chose comme ça, il me semble, non? Peu importe, mais en tout cas, le principe de la cinquième colonne, et c'est finalement, c'est le cheval de Troie aussi, d'une certaine manière. On infiltre les ennemis à l'intérieur, et on ne sait même plus qui est ami, qui est ennemi, mais ça va encore beaucoup plus loin, c'est ce qu'on appelle le principe de la substitution. Ça veut dire, je me fais passer pour toi. Donc automatiquement, il n'y a plus de combat possible, puisqu'on ne sait plus qui est quoi. Et plus encore, je me fais passer pour toi, et je t'élimine, je te fais disparaître, et on ne sera même pas compte que tu as disparu, puisque de toute façon, toi tu es toujours là, toi c'est moi. Mais c'est le principe de la substitution. Donc ça, c'est le combat le plus dangereux, parce que si on se substitue à l'autre, automatiquement on l'a remplacé, sans avoir besoin de mener un véritable combat. Et c'est la manière la plus forte dont le mal essaye de faire disparaître le bien, le phénomène de la substitution. Le phénomène de la substitution, on l'a vu dans l'histoire à différentes reprises, sur le plan politique, sur le plan religieux, etc. D'une certaine manière, le phénomène de l'espionnage, c'est le phénomène de la substitution. C'est-à-dire, je m'introduis à l'intérieur du milieu que je veux détruire, je me fais passer pour l'un des leurs, donc je me substitue finalement, puisque je me fais passer pour un membre de la CIA, alors je suis un membre du KGB. Donc automatiquement, je peux me battre sans être combattu. Je peux détruire sans recevoir des coups. Bah, c'est ce phénomène que nos maîtres expliquent dans le Nahash. Le combat du Nahash n'est pas un combat face à face dans le sens coup pour coup, c'est un combat de substitution. Il se fait passer pour ce que Adam et Chava recherchent en vérité. Adam et Chava recherchent le projet messianique, dit d'une manière plus simple, ils ont été créés le jour, selon les codes bibliques où il est dit, le sixième jour, Asher, Bara, Elohim, Laasot, ils ont été créés le sixième jour, retenez bien le sixième jour, et qu'est-ce qui a été dit le sixième jour? Asher, Bara, Elohim, Laasot, je vous ai créé pour vous continuer et parachever ma création. Dans le langage religieux, ça s'appelle amener le monde à sa délivrance, c'est le projet messianique. La Assia, c'est le projet messianique. D'où sait-on que la Assia, c'est le projet messianique? Parce que le projet messianique doit être mené par l'homme, et la Torah nous montre que l'homme est chargé de la Assia. Pourquoi? Parce que tout ce qui est créé pendant les six premiers jours de la création est créé avec l'expression Vayomer, il dit, et quand on arrive à l'homme, il est dit, Naasé, faisons! Pourquoi ce changement de terme? Le Zohar explique, parce que l'homme est la créature de la Assia, c'est lui qui doit réaliser le Hacher Bara Elohim Laasot, c'est lui qui doit parachever le monde, parachever quelque chose en hébreu biblique, se dit Laasot. En hébreu moderne, Laasot c'est faire, mais Rashi explique dans le récit de la création que Laasot signifie l'étaken, terminer une chose. C'est la vraie traduction biblique du mot Assia. Donc Naase Adam signifie faisons une créature qui sera capable de parachever ce que j'ai commencé. Pourquoi je ne l'ai pas terminé? Parce que justement, le rôle que je veux confier à l'homme, et ce rôle-là s'appelle tout simplement Mashiach. Mashiach est celui qui parachève la création et qui, avec toute l'humanité, fait rentrer l'humanité dans un monde metoukan, dans un monde réparé. Donc ça, c'est le travail de Adam, et comme on le sait, je vous ai expliqué, dans le mot Adam, on trouve la première lettre Adam ou Avraham, la deuxième lettre Dalet, David, et la troisième lettre même, Moshe ou Mashiach, les trois hommes fondamentaux qui représentent la construction jusqu'à la réalisation du projet divin. Donc Adam et Chava savent exactement pourquoi ils sont créés. Ils sont créés, puisque selon la symbolique biblique, ils sont créés le jour où il est dit « Asher bara Elohim la'asot ». Donc ils savent qu'ils sont créés pour devenir Mashiach. Ils sont créés pour l'étaken et ta'olam, pour terminer le projet divin. Ils n'ont pas de doute à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que va faire maintenant le Nahash? Le Nahash peut les combattre de deux manières. D'abord, qui est le Nahash? Le Nahash est celui qui a été créé aussi par le maître du monde pour que le projet que Adam et Chava doivent réaliser, ce projet ne se fasse pas en douceur, dans la facilité, mais dans la difficulté, dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner, expliqué d'une manière très très simple, c'est ce qui va donner à Adam, au projet de l'humanité, toute sa substance, toute sa consistance, tout son sens. Parce que si tout est facile et gratuit, alors à quoi sert de créer l'homme et quelle sera finalement sa grandeur lorsqu'il aura enfin réalisé le projet? Donc le Nahash n'est pas là pour détruire, le Nahash est là pour permettre à l'homme de devenir un homme véritablement. Maintenant, le Nahash, comment qu'il va combattre le projet messianique? Il peut le combattre de deux manières. Il peut dire « j'en veux pas ». Et je vais vous empêcher de le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle « itkafia ». Il vient et il se bat. Ou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire « mais non, au contraire, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, je veux du projet messianique. Moi aussi, la preuve, regardez, mon nom signifie Messie. Nahash Gematria Mashiach. Donc suivez-moi et vous allez être sûr d'arriver au projet messianique. » Ça, ça a été l'épreuve de Adam Harishon. Je vous ai souvent expliqué ce que je dis aujourd'hui, mais je pense jamais comme je vous l'explique aujourd'hui, parce que même moi, je me surprends par ce que je dis. Donc, c'est exactement ce que va faire le Nahash. Il ne va pas les empêcher d'être dans ce projet. Il va les détourner vers une copie du projet. Il va leur faire croire que son messianisme à lui est le vrai messianisme. Et Adam et Chava, croyant être occupés à construire le monde, ne vont même pas se rendre compte qu'ils sont en train de le détruire. Voilà ce qu'est le Nahash. Dans l'histoire, ce phénomène, bien évidemment, va se répéter à l'infini sur dans tous les domaines de l'existence, tous les idéalismes, que ce soit laïque ou religieux, qui se présentent sous la forme d'un messianisme, le bolchevisme ou peu importe, etc. Et quantité d'autres, et on les connaît tous. Celui auquel nous sommes confrontés depuis 2000 ans, que l'on appelle le Galout de Edom. Qu'est-ce que a fait Edom? Bien sûr, j'utilise les mots codés, mais vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce que a fait Edom? Edom n'est pas venu pour combattre Israël et dire « Nous ne voulons pas de votre projet messianique ». Qu'est-ce qu'a fait Edom? Edom a dit « Nous sommes la réalisation du projet messianique ». C'est-à-dire qu'ils ont pris le messianisme juif, ils en ont fait une copie, et cette copie est vendue au monde entier depuis 2000 ans. Et donc, le monde entier est sûr que on est dans le projet voulu par le maître du monde, puisque cette idéologie n'est fondée que sur le projet messianique. C'est l'une des plus grandes substitutions de l'histoire humaine. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce sujet en tant que tel qui m'intéresse, bien qu'il était bon dans le cadre du cours de le rappeler. Donc ça, c'est le Nahash. Maintenant, quelles sont les allusions à ce qui s'est passé avec Adam, Chava et le Nahash? Un mot dans la Torah suffit pour nous faire comprendre. Bon, l'explication Nahash Mashiach, mais comme tout ce que notre tradition enseigne, ce que les plus grands maîtres d'Israël enseignent, a forcément une allusion dans le texte écrit, parce que toute la tradition de la sagesse orale s'est fondée sur, on pourrait dire, les fondations, comme une maison que l'on construit, sur les fondations cachées, comme des fondations d'une maison, les fondations cachées qui sont elles-mêmes la Torah écrite. Où se trouve dans la Torah écrite une allusion à ce problème messianique? L'allusion est dans un mot. Le mot qui est dit dans le verset qui précède la venue du Nahash, le verset qui parle du Nahash, « Nahash, aya arum » et le Nahash était le plus rusé, etc., etc. Juste avant, qu'est-ce qu'il est dit? Adam et Chava étaient nus, « Velo yitbosheshu » « Velo yitbosheshu » Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Alors dans le mot « yitbosheshu », bien sûr, il y a le mot « boucha » qui permet la traduction littérale, qui est la plus répandue, et ils n'avaient pas honte. Très bien. Mais bien sûr, nos maîtres vont beaucoup plus loin. Ils nous font remarquer, comme on va le voir dans notre paracha, bien sûr, puisqu'on est en train de construire notre paracha, que dans le mot « vaitbosheshu », il y a le mot « shesh ». 6. La racine du mot « le'itboshesh », c'est, surtout que là c'est une conjugaison, « le'itbashesh », « le'itba ». Alors oubliez maintenant la traduction « honte »,« ve'lo'itbasheshu » qu'on pourrait traduire tel que nos maîtres l'expliquent, et il n'était pas sisifié, il n'était pas dans le 6. Ils ont refusé le 6. « Ve'lo » Yitboshesh, ils ont refusé de faire partie de la sixième dimension, traduit dans un langage moderne. Voilà comment le Zohar explique, Velo Yitboshechou, ils n'ont pas voulu de la sixième dimension. Qu'est-ce que signifie ils n'ont pas voulu de la sixième dimension? La sixième dimension, c'est Asher Bara Elohim La Asot, le monde a été créé pour être terminé, et eux n'ont pas voulu terminer le monde. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu d'une certaine manière le projet messianique. Mais comme la nature a horreur du vide, à partir du moment où eux n'étaient pas occupés véritablement dans ce projet, alors ça a laissé une porte ouverte au Nahash de venir et de présenter le sien. Comme on le sait, lorsqu'une personne est occupée à faire le bien, il est absolument impossible que le mal puisse venir à ce moment-là et le détourne. C'est quand une personne est complètement investie dans quelque chose qui le passionne et le construit et lui apporte le bonheur, comment le mal pourrait-il venir et le détourner? Mais le mal saisit toujours une occasion de faiblesse, de relâchement, de renoncement, de paresse. Et là, il s'introduit. Et donc ici, nos maîtres nous apprennent quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, qui d'une certaine manière, je fais un bond et je fais faire un petit peu de publicité, peu importe, mais qui, par de nombreuses allusions, va être repris par le rabbi beaucoup plus tard, lorsque le rabbi lance la campagne de Hinei Machi Arba, etc., et qu'il étonne le monde entier, et que tout le monde se dit, mais encore, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et il a eu plusieurs visions où il dit, mais sachez que si ce n'est pas nous, peuple juif, qui amenons le Mashiach, quantité d'autres prétendent pouvoir le faire à notre place, et regardez où ça mène le monde. Parce que la nature a horreur du vide. Et la Torah nous apprend ici quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que Adam et Chava et Loïd Bocheshu ne se sont pas occupés d'une manière saine, dans les deux sens, d'une manière saine, propre, sage, de faire venir le Mashiach, que le faux Mashiach est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté son modèle, on en a pris pour 2000 ans. C'est exactement ce qui s'est passé. On pourrait même dire que dans notre histoire plus ou moins contemporaine qu'on appelle l'exil de Edom, je pourrais vous prouver, mes amis, là, on va faire un petit cours d'histoire. Je pourrais vous prouver que le faux messianisme n'a fait que remplir le vide que le vrai messianisme, le messianisme juif, avait laissé. Rappelez-vous ce qui s'est passé à cette époque. Le faux messianisme est contemporain d'une grande catastrophe qui s'est abattue dans le peuple juif. D'abord, la destruction du deuxième temple. Mais surtout, plus encore, disent nos maîtres, et c'est mal connu par notre propre peuple. Nos maîtres disent qu'il y a eu à cette époque-là, quelques années après, une catastrophe plus grande encore que la destruction du deuxième temple. Ça a été quoi? Ça a été quoi? La chute de Bétar. La fin du règne de Bar Korba. La fin de l'espoir messianique juif. Qu'est-ce que c'était Bétar? Se lève un petit peu après la destruction du deuxième temple, un homme descendant de père en fils. Tout le monde connaît sa généalogie, puisqu'il a eu Rabbi Akiva, Rabbi Lazar Amodaï, tous les maîtres d'Israël à ses côtés. Un enfant direct de David Ameler, un homme pieux, un homme saint dans les deux sens du terme, avec et santé, un homme noble, un homme sage et un homme surtout vaillant, courageux, un petit peu dans l'esprit de mes deux derniers cours de cette semaine. Un homme qui arrive à réunir à la fois la chokhma et le oz. La sagesse, parce qu'il a la sagesse, finalement, de se lier et de se considérer comme l'élève des grands d'Israël, chose qui n'est pas évidente quand on est soi-même un grand et qu'on a surtout la force et du charisme. Il accepte de se soumettre à Rabbi Akiva, mais d'un autre côté, il a aussi le oz. Il est le seul qui est capable de faire ce que personne n'ose faire à ce moment-là. Défier l'Empire romain. Et il commence. Il est appuyé par les maîtres d'Israël. Et au début, ça marche. À 1 contre 1000, il avance de victoire en victoire. Il reprend de ville en ville. Il est presque en train même de reprendre, de préparer le siège, la reprise de Jérusalem. Et il ne va que de victoire en victoire. À un certain moment, Rabbi Akiva est persuadé que c'est le Mashiach lui-même. Et pour montrer à tout Israël qu'il n'a aucun doute sur l'identité de Bar Korba, et il ne s'est pas trompé, il était, oui, Mashiach potentiel, comme dit Maïmonide, entre autres, que dans chaque génération, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait Becheskat Mashiach, c'est-à-dire une potentialité de Mashiach, c'est-à-dire qu'il peut le devenir si tous les éléments le permettent. Et lui était Becheskat Mashiach, il était une potentialité de Mashiach. Rabbi Akiva se met à courir devant son cheval et dit à tout Israël, Dam Alka Meshicha, Dam Alka Meshicha, c'est un Talmud. Voici le roi Mashiach, voici le roi Mashiach. Seulement, c'était une potentialité de Mashiach. Et ça a mal tourné. Il a été défait et tué. Et ça a été après la chute, la prise de Bétar, où étaient réfugiés tout ce qui restait de force spirituelle et matérielle et physique d'Israël dans cette grande place forte qui contenait des centaines de milliers de juifs qui avaient la potentialité et le pouvoir de reprendre, comme à plus forte raison, comme les Hashmonaïm, les Hashmonéens l'ont fait contre les Grecs, à plus forte raison que Bétar pouvait le faire, ils étaient 100 fois plus nombreux que les Hashmonaïm qui avaient défait les Grecs, mais ça a été une catastrophe, ça a été la chute de Bétar. Et quand Bétar est tombé, à ce moment-là, le peuple juif est tombé lui aussi dans un désespoir inimaginable, au point que plus personne n'y croyait, parce que la dernière braise d'espoir messianique, en ce sens de retour à la nation et peut-être à la délivrance finale, après toutes les catastrophes qui venaient de nous tomber sur la tête. N'oublions pas aussi, comme expliquent nos maîtres, que le deuxième temple étant détruit, le prochain était forcément le troisième, et tout le monde savait que le troisième serait le temple de la délivrance. Et donc, Bar Korba, avec ses victoires, redonnait cet espoir absolument incroyable que ça y est, iné ou bas, le troisième temple va être construit. Et quand Bar Korba a été tué et que Bétar est tombé, à ce moment-là, oser dire à un juif quand le Mashiach viendra, c'était pire que le traité de la pire des insultes. Parce que le haut Mashiach, c'était le plus grand des gros mots à ce moment-là. Plus personne n'y croyait. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La nature a horreur du vide. Est venu le Nahash et son faux messianisme. Mais nous, non, on a un nouveau projet. Et le nôtre va marcher parce qu'on va alléger le messianisme, le nôtre, de tout ce qui empêchait le messianisme de se dévoiler, la rigueur de la loi, l'alliance dans la chair, etc., etc. On va faire du messianisme quelque chose qui est à la portée de tous, et vous allez voir, il va se répandre dans le monde à la vitesse de la lumière. Et ils ne se sont pas trompés. Ça a suprêmement bien marché, parce que le faux se vend toujours mieux que l'original. Ouais. C'est moins cher, dans le sens du terme. C'est moins cher, vous vous rendez compte? On peut s'attacher à Dieu sans se circoncire. Donc comme c'est moins cher, ça va beaucoup plus vite, forcément. Mais quoi qu'il en soit, s'il n'y avait pas eu un vide à l'intérieur d'Israël, jamais la copie aurait pu remplacer momentanément le vrai. C'était absolument impossible. Donc, d'une certaine manière, c'est oui la faute à Israël, comme toujours, c'est toujours la faute aux Juifs, comme on le sait. Pas de la même manière qu'eux le disent, mais d'une certaine manière, c'est évident que tant que le laboratoire ne fait pas ce qu'il faut faire, les gens continuent à être malades partout. Donc, on attend du laboratoire qu'il le sorte enfin son bon médicament. Et le bon médicament n'a pas été sorti, et finalement, ce sont des charlatans qui en ont fait des faux, et qui font croire que le monde est guéri. Quoi qu'il en soit, je reviens maintenant à ce que j'explique. Vous vous rendez compte comment toute l'histoire du peuple juif est écrite dans un seul mot de la Torah, Velo Yitbosheshu, ils ont refusé la sixième dimension, est venu le Nahash. Mes amis, le Zohar explique, et l'Ori HaKadosh explique, que le Chet à Egel, c'est exactement la même chose.
Il y a la même mot, c'est...
Qu'est-ce qu'ils ont vu?
Bo Sheshu Pa Amar.
Ils ont vu que est arrivé que Ubo Shesh Moshe Lavo. Ils ont vu que la sixième heure était arrivée, traduction littérale, et que Moshe n'était toujours pas là. La sixième heure, mais qu'est-ce que dit le texte? Bo Shesh Moshe Lavo. Boshesh ou Moshe Loba, dit Rashi. Boshesh, Moshe Lavo, traduction littérale, premier niveau, que Moshe tarde à venir. Deuxième niveau, explication de Rashi. Boshesh, il décompose en deux. La sixième heure, on va voir de quoi il s'agit, était arrivé, Moshe n'était toujours pas là. Et l'explication du Ari HaKadosh, Boshesh ou Moshe Loba, encore une fois, on est en attente du projet messianique et il ne vient pas. À l'époque de Adam Harishon, on était en attente que Adam et Chava prennent en main la sixième dimension. Ils n'ont pas voulu la prendre en main. Alors, le faussaire est venu et c'est lui qui a présenté son modèle. Exactement de la même manière, waouh, comme c'est fort. Moshe devait revenir avec les louchot, c'est-à-dire que Moshe devait à ce moment-là, d'une certaine manière, faire rentrer le monde dans la réalisation du projet messianique, comme on le sait. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Grâce aux première louchot, le peuple juif avait atteint le niveau de Bitul Malachamavet, de Bitul Shivot Malchuyot, je traduis en français que le peuple juif est arrivé à un niveau de potentialité de vaincre le penchant du mal et de vaincre le joug des nations. C'est-à-dire que ça y est, si Moshe redescendait, on pouvait enfin, avec plus de 2000 ans de retard depuis la faute d'Adam Harishon, on pouvait enfin réaliser le projet. Mais comme il a tardé à venir, en vérité lui n'a pas tardé à venir, mais comme dans ceux qui l'attendaient, il a tardé à venir, c'est comme on va le voir, eux se sont trompés, et selon leurs calculs, il tarde à venir, ils ont dit qu'est-ce qui se passe? La nature a horreur du vide, on ne peut pas rester sans projet messianique. Et ils sont partis se chercher une copie, un faussaire, et c'est le veau d'or. Et mais on va décrypter le veau d'or, vous allez voir. Waouh! Donc le veau d'or, disent nos maîtres, est la répétition encore une fois de ce qui s'est passé. Le Nachash, voyant que Adam et Chava, lo yitbosheshu, ne voulaient pas s'occuper du projet messianique, il est venu, il a proposé le sien. Exactement de la même manière, les Juifs voyant, selon leur calcul à eux, que Moshe ne revient pas, donc le projet messianique tel que Moshe voulait le présenter ne se réalisera pas, on ne peut pas rester sans projet, on apporte le nôtre. Et donc le veau d'or est le projet messianique proposé par Israël à ce moment-là, mais bien sûr dans le style de ce que le Nachash propose, c'est-à-dire une copie du vrai, c'est-à-dire un véritable faux.
Le Mekoshechetim, c'est la même chose ?
Pas vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires dans la Torah, je parle dans ces 40 ans, qui sont liés à ce problème-là. Mais disons que c'est dans le Chet HaEgel que la chose apparaît de la manière la plus forte, et on va l'expliquer, vous allez voir. Et après, il y a ce qu'on pourrait appeler des dérivés de ce problème fondamental, comme la faute des explorateurs. En vérité, l'essence, l'atome de tous les problèmes de l'histoire juive, c'est la faute du Hegel, qui est la répétition au niveau de notre peuple, de notre histoire, de la faute d'Adam Harishon, c'est-à-dire que lorsque les Juifs, les vrais, Moshe et ce qu'ils représentent, ne prennent pas eux en main le projet messianique avec toute la sagesse et la sainteté de la Torah, alors se lève même à l'intérieur d'Israël, puisque là c'est à l'intérieur d'Israël, mais on va nuancer, d'autres Juifs qui eux vont présenter leur projet messianique et qui vont tout mettre en l'air.
Mais c'est pas de sa faute, Moshe il a pas réussi la royauté dès le départ. Alors il ne pouvait pas être Melech HaMashiach.
Melech HaMashiach peut-être pas. Je n'ai pas dit que lui aurait été Mashiach, mais lui revenait avec les lourdes qui permettaient la réalisation. Le Mashiach lui-même aura des habits. Ce n'est pas lui qui va faire ses habits, il va les acheter de quelqu'un. Il aura une couronne sur la tête, je plaisante bien sûr, mais la couronne, ce n'est pas lui qui va la confectionner. Ça veut dire qu'évidemment que le Mashiach se sert d'instruments apportés par d'autres. Mais de la même manière, si Moshe était revenu avec les lourdes, on peut imaginer que Nachshon ben Aminadav serait devenu Mashiach, d'autant plus que Nachshon a dans son nom Nachash, et donc c'est quelque chose qui est connu et qui n'est pas de moi bien sûr. Donc la potentialité messianique était là, simplement que le Mashiach lui-même c'est pas le bon Dieu, il a besoin d'être aidé. Le Mashiach lui-même aura peut-être un maître, aura des maîtres, et donc automatiquement le Moshe aurait été le maître du Mashiach, tout comme David avait des maîtres. Il n'était pas le plus grand prophète de sa génération, il y avait le prophète Nathan. Donc, il n'y a pas de contradiction à cette notion-là. Il faut toujours se rappeler que le judaïsme refuse catégoriquement de voir dans la personne du Messie un être absolument complet qui se suffit à lui-même. C'est un être parfait dans le domaine qui lui a été confié. Mais il a lui-même besoin de quantité d'autres éléments représentés par d'autres hommes qui le complète, comme par exemple le fameux symbole de Eliyahu Hanavi qui vient annoncer le Mashiach. Et pourquoi ne s'annonce-t-il pas tout seul? Donc Eliyahu Hanavi a un travail à faire que le Mashiach ne peut pas faire pour lui. Et donc c'est ce qui permet aussi de nuancer, de ne pas diviniser, comme on le sait, un être déjà assez extraordinaire, mais pour ne pas tomber dans cette déviance et cette maladie mentale de toujours vouloir voir la perfection absolue dans un seul homme, qui est une véritable maladie mentale. Quoi qu'il en soit, on revient maintenant à ce qu'on explique. Il va falloir donc maintenant comprendre deux choses. Qui a véritablement fait le veau d'or? Et qu'est-ce que le veau d'or représente? Quel est son décryptage? En quoi il y a une idée de faux messianisme dans le veau d'or? Je vais répondre à la première question, mais vous la connaissez la réponse, je vais simplement l'expliquer un petit peu plus. Et la deuxième partie, c'est déjà, bien que c'est une notion que j'avais évoquée déjà il y a fort longtemps, mais je vais la reprendre. Nos maîtres sont très clairs. Qui est véritablement l'initiateur du Vaudor? Ce qu'on appelle le Erev Rav. C'est qui le Erev Rav? D'abord techniquement, ça ne veut pas dire qu'Israël n'a pas suivi. Mais on voit des versets, clairement. Lorsque ceux qui font le Vaudor disent « Ele Elokecha Israël, voici ton Dieu Israël. » Rashi fait remarquer qu'ils auraient dû dire « Ele Elokenu Israël, voici notre Dieu Israël. » N'importe quel juif voit ici qu'il y a une erreur, une anomalie grammaticale, mais qui crie le message. Si ce sont les juifs qui ont fait le vaudor, alors pourquoi est-il dit « Ele Elokecha »« Ele Elokenu » Nos maîtres expliquent, parce que comme on le sait, depuis la sortie d'Égypte se trouvait une multitude de non-juifs qui nous avaient accompagnés au moment de la sortie d'Égypte, et ce sont eux qui ont été les initiateurs du Vaudor. Et c'est pour ça que c'est eux qui ont dit, en s'adressant à nous, parce qu'au départ, quand eux ont fait le Vaudor, ils ont vu que Israël refusait de s'approcher. Et ils ont dit, mais non, n'ayez pas peur, la nature a horreur du vide, le Nachash qui prend la place du vide qu'on lui laisse, et l'Elokera, mais n'aie pas peur, mon projet c'est le tien, ce que tu veux, je te le donne. Qu'est-ce que tu veux Israël? Un Dieu qui te sort d'Égypte et qui t'amène en Eretz Israël, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Voici le Dieu qui t'a sorti d'Égypte, et voici le Dieu qui va t'amener en Eretz Israël, donc je ne viens pas te proposer autre chose. Substitution. Il parle de la même chose. Mais en vérité, c'est une substitution. On est en plein dans la faute d'Adam Harishon. Ils n'ont pas dit, regardez bien, voici un nouveau Dieu qui va nous apporter un nouveau projet. Non ! C'est le Dieu dont Moshe vous a parlé. Nous ne venons rien changer. D'accord ? Simplement que les formes vont être un petit peu différentes. Mais c'est exactement le nouveau par rapport à l'ancien. Tout l'esprit, nous le gardons. C'est la forme qui change uniquement. Maintenant, on se circoncira le cœur, on n'aura plus besoin de se circoncire la chair. C'est la forme qui change, mais pas le fond. Voilà ce qu'est la faute du Vaudor. Mais on va aller un peu plus loin encore. C'est extraordinaire. Maintenant, on va voir ce que le Zohar dit. Est-ce que ça veut dire que tout le Erev Rav, c'est eux qui ont vraiment fait cette faute-là? C'est quand même difficile à imaginer. Quoi, il n'y avait pas parmi eux énormément, la moitié, et pourquoi pas la majorité, de vrais convertis, puisqu'ils se sont convertis ces gens-là. Quoi, c'est une remise en cause de la conversion, cette histoire-là? Bien sûr que non, dit le Zohar. La preuve, Hachem fait allusion à ce que je dis quand il dit à Moshe, « L'ech red ki shichet amecha » « Descends, parce que ton peuple s'est perverti. » Moshe dit à Moshe, explique Rashi, « Mon peuple, c'est-à-dire quoi mon peuple? Quoi, moi je suis Dieu, moi j'ai un peuple, moi c'est ton peuple, c'est pas... » Il dit, « Non, ton peuple, ce que toi tu as sorti d'Égypte pour les convertir, sans me demander mon avis, parce que toi tu pensais qu'il était bon de les convertir, c'est ceux-là que je considère comme étant ton peuple, c'est eux qui ont fauté. » Ça veut dire quoi? Tiens, Moshe a pris l'initiative de convertir des milliers d'Égyptiens sans référer à Hachem. Quoi, Moshe, mais qu'est-ce qui lui prend? Vous pouvez imaginer un seul instant que Moshe s'est trompé. Mais Moshe, ça c'est aussi un vieux cours. Moshe a des milliers de preuves comme quoi ce qu'il a fait est 100% bien. D'abord parce que le bon Dieu, il n'a pas la langue dans sa poche. Quand il n'est pas d'accord avec une chose, il peut le dire. Ça a pris quand même du temps pour rassembler tous ces milliers d'Égyptiens. Tu ne pouvais pas me dire non, ne les prends pas. Tu ne m'as rien dit. D'accord. En plus, Moshe, c'est un juif, un vrai. Ça veut dire que ce n'est pas un robot. Quand Dieu me dit va à droite, je vais à droite. Quand il me dit va à gauche, je vais à gauche. Quand il me dit rien, je ne bouge pas. Lui, c'est le digne descendant d'Abraham. Et regardez ce qui est dit sur Abraham. Nos maîtres disent, Rashi, au début de Parshat Noar, pourquoi Avraham était plus grand que Noar, dit Rashi? Parce qu'il est dit sur Noar, Eta Elohim Italer Noar. Noar, lui, il n'avançait qu'avec Hachem. Là où Hachem va, il va. Hachem va pas, il bouge pas. Tandis que sur Avram, il est dit, Italer Lefanaï, avance devant moi, je te rejoins. C'est une parabole. Ça veut dire que le juif est celui qui n'attend pas de recevoir un signe d'Hachem pour faire. C'est ce que j'ai expliqué cette semaine sur la témérité. Ça veut dire, si tu attends que tu reçois un signe, tu ne feras jamais rien. Nachshon n'a pas attendu que Moshe lui fasse un signe pour entrer dans la mer. Zimri n'a pas attendu que Moshe lui fasse un signe pour tuer Pinchas, pour tuer Zimri. Pourquoi? Parce que c'est ça l'homme, prendre des risques. C'est ça le libre arbitre. Donc Moshe n'a pas besoin qu'on lui dise « fais-le pour le faire ». Si Hachem, au moment où il le fait, lui dit de ne pas le faire, il ne le fera pas. Mais Hachem ne lui a pas dit de ne pas le faire. Deuxièmement, toute la vie de Moshe est construite sur la conversion. Qui c'est qui a fait de lui un homme? Qui c'est qui a fait de lui un homme? Une convertie. D'où on sait que sans Tzipora, Hachem ne s'intéressait pas à lui? Hachem lui parle la première fois à l'âge de 80 ans, au lendemain de son mariage avec Tzipora. Nos maîtres disent de là, tu vois que sans Tzipora, Hachem refusait de lui parler. Qui c'est qui l'a connecté à Hachem? Tzipora, une convertie. Qui c'est qui l'a sauvé d'abord?
Tzipora.
Bithya, une convertie. Qui c'est qui va donner son nom à la paracha du don de la Torah? Un converti. Toute la vie de Moshe, son sauvetage, sa construction et la Torah qu'il donne, toute la vie de Moshe est liée à la conversion. À moi, tu vas me dire, ne fais pas de converti? C'est pas ça le problème. C'est que Moshe avait 100% raison dans le fait de prendre avec lui tous ceux qui voulaient rejoindre Israël. Mais là où il a fait une grave erreur, c'est qu'il ne savait pas à quel point Pharaon était plus malin que lui. Qu'est-ce que nous dit Rashi dans Parshat Béchalar? Que Pharaon a profité de toute cette multitude de non-juifs acceptés par Moshe, cette multitude qui rejoignait Israël, pour infiltrer à l'intérieur des gens à lui, dont le projet était de saisir la moindre des occasions pour détruire de l'intérieur le peuple juif. Des infiltrés. Pharaon, quand il voit que Israël lui échappe, il dit « Vous m'échappez, mais vous crèverez de l'intérieur. » Et voilà que rendent quantité des centaines, peut-être des milliers d'infiltrés à la solde de Pharaon, qui chacun dans son domaine devra agir pour Nachash, le serpent. Plus que ça encore, le Zohar nous dit que, Rashi nous dit, pardon, que ceux qui ont fait le veau d'or étaient des sorciers. Ça veut dire qu'ils avaient été infiltrés dans le peuple pour qu'à la moindre occasion, ils utilisent leur pouvoir pour impressionner et détourner Israël. C'est eux qui ont fait le veau d'or. Et le Zohar rajoute sur Rashi que le chef, les deux chefs des sorciers étaient les deux enfants de Bilham, fidèle compagnon et conseiller de Moshe, qu'il avait introduit, lui, Bilham, le pire ennemi de Moshe, qu'il avait introduit à l'intérieur d'Israël, étant même de très très grands sorciers, en leur disant, dès que vous trouvez l'occasion, vous détournez Israël du projet divin. Ce qui veut dire qu'avait été mise sur place toute une politique d'infiltration, stratégie, religieuse, sorcellerie, politique, etc., etc. Et ils attendaient le principe de la nature qui a horreur du vide. Où c'est marqué clairement dans la Torah ce que je dis? Où c'est marqué, vous regarderez, un verset absolument incroyable. Où c'est marqué, nos maîtres le disent, mais tout enseignement de nos maîtres a une allusion. Il y a un verset incroyable où Moshe dit, je vois que le peuple est paroua, les lettres paro, je vois que le peuple est mis à nu, ça veut dire comme on dit, il est pris la main dans le sac, comme le voleur la main dans le sac, qui paro, parce que, c'est un verset qui est difficile à traduire, paroua qui paro, lifne kamehem, parce qu'il est mis à nu devant tous ceux qui maintenant pourront le montrer du doigt. Qui par en haut est écrit en toutes lettres et se prononce en toutes lettres dans l'écriture de la façon comme le mot pharaon. Paro. P, Resh, Vav, He. Aïn, Paro. Qui par en haut? Ici, il y a une allusion. Pourquoi utiliser ce mot pour dire il a été mis à nu? On aurait pu dire un mot plus simple, mais goulé, peu importe. Paro, le verset fait allusion au fait que la faute du veau d'or n'a pu avoir lieu que à cause de la stratégie de Paro. C'est lui qui a fait rentrer dans le peuple juif. Cette stratégie a toujours existé depuis toujours. Nos ennemis ont toujours su que la meilleure manière de détruire Israël, c'est d'introduire à l'intérieur des faux juifs auxquels on construit une identité juive comme des espions. C'est le même principe que l'espionnage. Et de l'intérieur, des gens qui, bien sûr, aidés par ceux qui les envoient, ont de gros moyens et arrivent à monter les échelons, soit sur le plan politique, soit sur le plan religieux, etc. Et une fois qu'ils ont atteint une certaine notoriété, ils nous détruisent de l'intérieur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et donc, c'est pas forcément ce qu'on imagine, mes amis. Ouh là 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 là. C'est pas forcément ce qu'on imagine, parce que pour que ça marche, il faut que ça soit que la ressemblance soit la plus parfaite possible. Plus parfaite possible.
C'est le principe du virus avec les cellules.
Ah, du virus.
Il va prendre exactement à l'intérieur et il va copier une cellule, il va faire la même et ensuite il va commencer à détruire.
Absolument. Absolument. C'est exactement ça. Dans chaque génération, nous souffrons de ce phénomène et dans notre génération aussi. Et j'avais dit comme ça dans un cours cette semaine, et il y avait même des commentaires dessus, je le redis dans ce cours. Mais je ne veux pas du tout faire une polémique là-dessus, ne me prenez pas au mot pour m'obliger à m'arrêter sur ce que je vais dire, ou alors après dans les questions si vous voulez, mais l'un, parce que ce monstre a plusieurs têtes, mais une des têtes les plus monstrueuses de ce monstre, c'est les Netore Karta. Les Netore Karta sont des goïms, à l'origine, introduits par le Vatican à l'intérieur du peuple juif, pour le détruire de l'intérieur. Je suis très 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 sérieux. Je ne dis pas que tous le savent, mais le noyau dirigeant des Netore Karta, ce sont du RF Rav, ce sont des infiltrés.
Femme qui dirige, comment? Il est une Française chrétienne d'origine.
Netore Karta?
Oui, la Hirsch.
Ah oui, il y a même eu là-dedans. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, parce que là c'est déjà du pointé sur des gens, donc je ne répéterai pas ce que tu as dit. Mais effectivement, on le sait qu'il y a eu dans ce milieu-là des infiltrations de soi-disant conversions, etc. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, d'autres thèses disent qu'en vérité, après le Mossad s'est servi d'eux pour infiltrer aussi les siens, ce qui lui permet d'être proche de Arafat, d'être proche... C'est une bande de crétins, de toute manière, soit qu'ils sont infiltrés, soit qu'ils sont infiltrés eux-mêmes, le Mossad leur a fait ce que nous, ils nous ont fait. C'est-à-dire que nous, ils nous infiltrent. Pourquoi ils sont très dangereux? Parce qu'au nom de la Torah, ils critiquent la Torah. Et donc, tout le monde dit, mais voyez, regardez quand même des grands barbus, des papillotes, regardez comment ils parlent, du sionisme et machin, etc. S'ils savaient qu'en vérité, ce sont de simples chrétiens. Et qu'est-ce qu'a fait le Mossad? Le Mossad a dit, ah, vous nous infiltrez, ben nous, on vous infiltrer. Il a fait rentrer au milieu des Netore Karta des tas d'agents qui vont se retrouver après en Iran, qui peuvent mettre des micros partout, etc. Et Ahmadinejad ne s'en rend même pas compte qu'il est complètement infiltré. Mais c'est sûr que c'est vrai.
C'est officiel.
Comment?
C'est officiel.
Ce que je dis est officiel. Tu veux que je donne mes sources aussi? Déjà, moi, je prends les risques pour moi. Je veux aussi mettre d'autres dans le risque. Et donc, bien sûr, c'est officiel. Maintenant, attention, il y a parmi eux des crétins finis qui ne savent même pas, qui croient qu'ils sont juifs ou qu'ils le sont peut-être. C'est sûr que pour un mouvement comme ça infiltré au départ, après justement, parce que pour que ça fasse vrai, il faut forcément qu'ils soient juifs. Mais au départ, c'est une infiltration. Et une infiltration infiltrée. Donc, mais ce n'est pas que dans le domaine religieux. Il y a dans le domaine politique, etc. aussi. Mais là, c'est déjà trop délicat, trop douloureux. Et j'ai pas envie d'aller plus loin parce que j'essaye quand même malgré tout de préserver mes battements de cœur. Quoi qu'il en soit... C'est le phénomène dont nous parle la Torah. Le veau d'or a été fait, dit le Zohar, par les deux fils de Bilham et par toute une armée d'infiltrés qui étaient eux-mêmes à l'intérieur d'une grande majorité de vrais et de bons convertis. Le RF Rav, que Moshe a converti parce qu'il savait qu'il fallait convertir. Mais à l'intérieur de ce RF Rav, on put s'infiltrer ceux qui nous ont fait du mal. Ça, c'est ce que dit Rashi. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Écoutez-moi bien. Dans le même Rashi, mes amis, vous le verrez, Rashi donne deux sources pour expliquer ceux ou qui ont fait le veau d'or ou comment le veau d'or s'est fait. Dans le même Rashi, il dit ceux qui ont fait le veau d'or, c'est donc les sorciers du Erevrav, traduction Zohar, les enfants de Bilham et les non-juifs déguisés en juifs qui étaient envoyés par Paro, comme le dit le verset, pour nous détruire. Et dans le même Rashi, Rashi va un petit peu plus loin et dit que, en vérité, non, comment ils ont fait le veau d'or, c'est grâce à Micha. Micha était lui un vrai juif. Qui c'est Micha? Micha, c'est cet enfant dont la souffrance avait fait hurler Moshe de rage et de colère contre Hachem. Cet enfant qui avait été arraché des bras de sa mère, qui avait été mis à la place du ciment dans le mur. Et Moshe, voyant ça, est devenu fou de rage. Il a dit à Hachem, mais laisse ce peuple tranquille. Et Hachem lui a dit, bon, mais si toi tu sais mieux que moi, très bien, il n'y a pas de problème. Le mur est tombé, l'enfant est sorti. Et cet enfant-là va devenir le fameux Micha, le seul juif qui a quitté l'Égypte avec une idole cachée dans sa poche. Et aussi, il avait volé, dit Rashi, le fameux passe. Le fameux passe, le fameux, comment dire, tablette en or, qui appartenait à Moshe. Il l'avait volé à Moshe. Et sur ce tableau en or, non, comment on dit passe en français ? Sur cette tablette en or, Moshe avait marqué le mot shor. Shor qui veut dire le veau d'or. Mais ça fait. Non, shor en hébreu biblique fait aussi allusion à un petit veau, c'est le même mot. Comme dit le Talmud, Egel, miyom shenolad nikra shor. Un shor, c'est le mot global qui est donc le veau, le taureau, etc. Donc il avait marqué le mot shor, c'est-à-dire pour ça que dans les psaumes, quand David Ameler parle de la faute du veau d'or, il ne l'appelle pas Egel, mais il l'appelle Shor, Shor, Ochel et Sev. Ils m'ont abandonné pour un taureau qui mange de l'herbe. Ça fait allusion au veau d'or, et là-bas il est appelé Shor. Et donc, il y avait marqué le mot Shor, et qu'est-ce qu'a fait Moshe avec ce passe sur lequel il y a marqué le mot Shor? Il l'a jeté dans le Nil pour trouver le cercueil de Yosef. C'est une histoire extraordinaire. Pharaon savait, écoutez-moi bien, Pharaon savait que sans Yosef, les Juifs ne sortiront jamais d'Égypte. On va voir tout de suite pourquoi. Il l'avait caché au fin fond du Nil. Et Moshe a donc pris un passe en or, écrit le mot Shor dessus, il l'a jeté dans le Nil et il est remonté avec le Aaron de Yosef. Ce passe-là, Moshe, par négligence, l'avait laissé traîner et le fameux Micha l'avait piqué. Et qu'est-ce qu'a fait Micha? Il a sorti son passe, il l'a jeté dans le feu. Et est sorti, grâce à la combinaison du passe de Micha et de la sorcellerie des enfants de Bilham, grâce à cette combinaison-là, est sorti le veau d'or. Bien sûr, ça, ce sont des codes. Je ne sais pas si l'histoire s'est vraiment passée comme ça, peut-être oui, peut-être non, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, on n'y était pas. Mais par contre, le message, lui, il est extrêmement fort. Dans cette combinaison du passe de Yosef et les sorciers. Alors maintenant, qu'est-ce que représente, pourquoi le Shor représente Yosef? Le Zohar explique à partir de là qu'en vérité, le Shor, le fameux veau d'or, était une effigie, une représentation faite en l'honneur de Yosef. C'est-à-dire l'attribut représenté par Yosef, la force de Yosef. Ce qui poussera Ramban, Nachmanide, à dire sur place dans cette paracha, qu'en vérité, ce n'était pas une volonté de remplacer Dieu, d'ailleurs comme les versets le disent, ni de remplacer le projet, mais de remplacer Moshe par Yosef. Et comme l'animal qui représentait Yosef, c'était le Shor, d'où on le sait que c'est le Shor. Qui a comparé Yosef à un taureau? Qui? Yaakov. Yaakov a donné à Yosef la force du taureau. Pourquoi? Parce que le taureau, c'est l'ordinateur dans le langage biblique. La force civilisatrice. Avec quoi on civilisait le monde pendant des siècles? Avec des taureaux et des charrues. Les aujourd'hui, rêves. Avec la technologie.
Les rêves de Yosef.
Etc. Les rêves de Yosef, etc. La vache représente la culture, l'abondance, etc. Donc Yosef, qui est bien sûr le Mashbir Agadol, qui est le grand réorganisateur de l'Égypte et de la superpuissance, est représenté par un taureau. Il a reçu la force, la dimension matérielle. Ça, c'est Yosef. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Nous, on pensait que le projet allait être réalisé sous le signe du symbole appelé Moshe. Eh bien, ça n'a pas marché. On va le remplacer par Yosef. Mais nos maîtres vont beaucoup plus loin. Et pourquoi par Yosef? Pourquoi pas par quelqu'un d'autre? Pourquoi par Yosef? Parce que Yosef incarne Mashiach ben Yosef. Dites-moi, pourquoi Moshe a tenu, demande nos maîtres, à ce que Yehoshua ne soit pas dans le camp pendant tout le temps où lui était sur la montagne? On le voit dans notre paracha. Vous imaginez, il est resté pendant 40 jours au pied de la montagne en train de crever de faim et de soif. Pourquoi? De toute façon, Hachem avait dit clairement à Moshe que seul toi pourras monter et celui qui s'approche, gare à lui. Pourquoi tu prends Yehoshua? De toute façon, il n'est pas là pour te servir. Tu es tout en haut pendant 40 jours, il est tout en bas. Pourquoi? Parce que Moshe avait un pressentiment. Quand le chat n'est pas là,
les
souris dansent. Elles ont dansé, les souris. Et donc, il a dit à Yehoshua, toi, je te mets de côté. Pourquoi?
Ça n'a pas pollué.
Et pourquoi? Pourquoi Yehoshua? Parce que Yehoshua est le descendant direct de Yosef. Et parce que Moshe sait que l'entrée en Eretz Israël, la conquête de la terre d'Israël, la construction, la première phase de construction du peuple sur sa terre s'appelle Mashiach ben Yosef. Avant Mashiach ben David, il y a un ordre à respecter, le Mashiach ne peut pas venir comme ça. Il y a d'abord Mashiach ben Yosef, il y a d'abord 150 ans de retour d'Israël sur sa terre, de défrichage de marais, de construction de villes, de routes, de ponts, etc. D'une économie, d'une industrie qui marche, et après Mashiach ben David se dévoile. Il y a un ordre à respecter. On ne peut pas court-circuiter l'histoire. Et c'est ce que Pharaon savait. Pourquoi Pharaon avait caché Yosef? Parce qu'il savait que le messianisme juif ne peut commencer que par la dimension Mashiach ben Yosef. Non, Pharaon avait caché Yosef dans le Nil pour empêcher les juifs de sortir. Parce que sans Yosef, ils ne sortiront pas, d'où Pharaon le sait. Parce que le pharaon sait que les juifs se construisent de Mashiach ben Yosef à Mashiach ben David. Et sans Yosef, ils n'y pourront jamais se construire. Et donc il avait caché Yosef. Qu'est-ce que fait Moshe? Il écrit Shor. Pourquoi il n'a pas écrit Yosef devant nos maîtres? Pourquoi Shor? Parce qu'il écrit le nom de Yosef selon ses compétences. Tu es celui qui nous reconstruit sur le plan matériel. Le Shor, c'est l'ordinateur. C'est ce qui fait avancer l'économie. Et donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle il envoie le passe. Et donc, c'est la raison pour laquelle Moshe dit à Yehoshua, toi sors de là pendant que je ne suis pas là. Parce que si Mashiach ben Yosef lui-même il est esquinté, alors il n'y a plus de projet. Sors de là-bas. Mashiach ben Yosef reste intact, il attend Moshe. Mais comme Moshe n'est pas là, Mashiach ben Yosef, le vrai, n'est pas là, qu'est-ce que fait la nature? Elle a horreur du vide. Elle se trompe de 6 heures. Elle voit qu'il y a un vide au niveau du 6. Elle dit, mais nous, on va le remplir, le 6. Et ils amènent leur faux messie. Et c'est quoi le faux messie? Eh bien, c'est le passe de Yosef, c'est un taureau. Ça veut dire quoi? Mashiach ben Yosef. Mais entre les mains, Dieu est Revrav. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mashiach ben Yosef, entre les mains, Dieu est Revrav. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour la première fois, je vous dis sincèrement que j'ai envie de pleurer. Mashiach, souvent je plaisante, mais là c'est vrai, j'ai beaucoup d'émotions. Mashiach ben Yosef entre les mains de Erev Rav. Lorsque les nations se rendent compte que l'on ne peut plus freiner le projet du retour d'Israël sur sa terre, parce qu'on en a trop sur la conscience avec la Shoah, ou parce que ça fait trop 2000 ans qu'on n'arrête pas de leur taper dessus, et puis parce que tout, il y a aussi des remords et des effets mauvaise conscience, qui ne savent plus où ils en sont, allez tiens, qu'on leur donne un état. Mais d'un autre côté, ils introduisent à l'intérieur du projet de Sion, des infiltrés qui vont tout faire pour falsifier, détruire de l'intérieur le projet Mashiach ben Yosef. En se disant, de toute façon, on ne les a pas eus de l'extérieur, on va les avoir de l'intérieur. Voilà ce qu'est la faute du veau d'or. Voilà ce que c'est. Depuis Herzl, jusqu'à nos jours, les nations, et on sait surtout qui est le moteur des nations, infiltre à l'intérieur du projet sioniste du Erev Rav afin de nous détruire par leurs idéologies de l'intérieur, afin de nous affaiblir, de nous détourner de notre véritable mission, pour que finalement le sionisme, le vrai, se meure et que la nation, qu'à Dieu ne plaise, disparaisse. Voilà ce qui se passe depuis 150 ans et surtout depuis 64 ans. Voilà ce qui se passe. En Chadash Tachat Hashemesh. L'histoire n'a pas changé. La faute du veau d'or et la tentative du Nahash de récupérer le messianisme. Quand le Nahash voit qu'il ne peut plus l'empêcher, il dit « je le récupère ». Le Nahash, c'est ça la faute d'Adam Harishon. Je vais vous expliquer que toute l'histoire du peuple juif, c'est le combat des vrais contre les faux qui récupèrent du vrai pour le falsifier. Et à notre époque contemporaine, le grand danger du faux messianisme, c'est toutes les fausses idéologies qui se trouvent infiltrées à l'intérieur du processus de retour d'Israël sur sa terre, qui essayent et qui arrivent à nous affaiblir de l'intérieur pour nous faire douter de nos droits. On ne sait plus qui est quoi. Est-ce que cette terre est à nous? Est-ce qu'elle n'est pas à nous? Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on n'a pas raison? Est-ce qu'on doit être là? Est-ce qu'on ne doit pas être là? Est-ce que finalement on n'était peut-être pas mieux en Europe? Et pourquoi ne pas partir en Amérique? Si nous on n'y arrive pas, au moins que nos enfants y aillent. Toutes ces idéologies sont là pour nous détruire l'intérieur. Mais ce n'est pas que sur le plan politique. Ce n'est pas que sur le plan politique. Sur le plan religieux aussi. Le Erev Rav est très très fort. Parce qu'on nous met les Torah Karta d'un côté, on nous met certains courants politiques de l'autre. Mais d'une certaine manière, toute la société, comme on le voit aujourd'hui, est infiltrée par des forces qu'on n'arrive plus à contrôler. Et la mafia à l'intérieur d'Israël, qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, on assiste pratiquement chaque semaine à des règlements de comptes. Mais qui sont vraiment ces gens-là? Est-ce qu'on se pose la question? Bien sûr, ils ont des noms qui font très juifs. Mais qui sont-ils? Quelles sont les forces qui les manipulent? Quel est l'intérêt qui se cache derrière tout ça? Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire, je ne dirai jamais, je n'ai jamais dit que tout ce qui est ce genre de phénomène, ce sont des infiltrés. Bien évidemment qu'à 80%, ce sont des juifs. Mais la matrice, le moteur créateur de ces forces négatives nous a révélé notre paracha il y a 3500 ans. Les moteurs sont ce qu'on appelle le Erev Rav. Le Zohar va très 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 loin sur cette notion. Le Zohar nous explique que la délivrance finale ne dépend que et uniquement que du nettoyage, sont les mots du Zohar, d'Israël, de ses propres forces contraires qui le ruinent de l'intérieur. Les prophètes ont fait allusion à ce phénomène en disant qu'un jour, dit le prophète, au nom d'Hachem, je prendrai la terre et je la secouerai comme un linge sale et toutes ces saletés tomberont et quitteront le tissu qu'elles sont en train de salir et d'abîmer de l'intérieur. Et finalement, le Zohar explique que le dernier grand combat d'Israël, c'est contre lui-même d'une certaine manière, le repérage des vrais et des faux. C'est ce qui poussera un livre très très connu qui est le livre du Kol HaTor, écrit, et je termine, par le Rav de Sokolov, un élève direct du Gaon de Vilna, un livre qui est la Bible des temps modernes, si j'ose dire, qu'on ne peut pas ne pas connaître par cœur, le Kol HaTor. Et dans ce livre-là, donc un livre écrit il y a plus de 300 ans, l'élève dit qu'un jour son maître, le Gaon, s'est enfermé pendant des semaines et il refusait de sortir et on l'entendait pleurer. Jusqu'au jour où on a su pourquoi il pleurait, et il a dit Israël, dans son histoire, s'est battu contre deux grosses clipotes. La clipa d'Essav, la clipa d'Ishmaël, et puis il s'est arrêté, il s'est remis à pleurer, il a dit, mais le jour où Israël devra se battre avec la dernière, la troisième clipa qui est le Erev Rav, cette clipa-là, mi odea, qui sait si on arrivera à bout d'elle. C'est-à-dire qu'il a vu que la clipa du Erev Rav était une clipa qui était encore beaucoup plus dangereuse que les... Pourquoi? Parce que Esav et Ishmael viennent de l'extérieur. Et il rajoute dans ce livre, et c'est quoi la clipa du Erev Rav? Un livre qui a été écrit il y a 300 ans. Regardez la modernité. Il dit, lorsque Esav et Ishmael se rendront compte que de l'extérieur, ils ne sont pas arrivés à détruire Israël, ils introduiront, avant la délivrance finale, un nouveau genre d'Erevrav, qui sera un mélange de Esav et d'Ishmaël, qui essaiera de nous détruire de l'intérieur. Voilà, tout le monde comprend ce que cela peut signifier. Et donc, mes amis, Baruch Hashem, on est dans de beaux draps, c'est le cas de le dire. Et donc, il faut souhaiter que tout s'arrange. Et maintenant, bombarder de questions.
Il y a des erreurs qui aussi.
Comment? Mais quel est le rôle ou la responsabilité?
Sauf que je vous demande, bien sûr, sur un cours aussi champ de mine que celui-là, de ne citer personne, de ne faire allusion grossièrement à personne, sauf le Netoré Karta, j'ai pris ça sur moi parce qu'il est grand temps que quelqu'un ait le courage de dire qui ils sont véritablement. J'ai déjà fait cette semaine, j'ai pas attendu ce cours, mais il était quand même temps qu'un rabbin ose dire ce que personne n'ose dire, et donc qu'on les chasse une fois pour toutes de notre peuple, de notre identité, et que l'on dise fièrement et hautement, ce ne sont que de sales étrangers qui se sont infiltrés chez nous et se font passer pour des juifs. Oui, on peut passer maintenant en question.
Quel est le rôle ou la responsabilité à l'époque de Aaron et éventuellement d'Aaron aujourd'hui?
Comment?
Quel est le rôle ou la responsabilité de Aaron dans ce que vous venez de expliquer et éventuellement d'un Aaron aujourd'hui?
Par rapport au veau d'or? Et Aaron, je ne peux pas l'expliquer en quelques minutes parce que je voudrais aussi qu'il y ait d'autres questions. Mais c'est un sujet absolument passionnant et gigantesque. Aaron, c'est qui finalement? Aaron est celui qui s'est rendu compte que dans le veau d'or se cache finalement quelque chose d'extrêmement juste. L'idée du Mashiach Ben Yosef. Et Aaron est celui qui ne veut pas jeter les couches avec le bébé. Aaron est celui qui se dit, c'est pas parce que l'idéologie messianique a été infiltrée qu'il faut y renoncer complètement. Si je devais donner un exemple de ce que cela représente, c'est comme cette tendance ô combien actuelle dans notre peuple jusqu'à aujourd'hui, une tendance, je parle d'une des tendances du judaïsme officiel, classique et légal, qui est tellement dégoûtée parce que la notion du messianisme a produit dans l'histoire, depuis 2000 ans, en passant par Shabtai Tzvi et d'autres, que dès qu'on leur parle de Messie, ils sortent leur revolver. Pourquoi? Parce que c'est la critique inimaginable que le rabbi a eue en 100 ans. Et ça faisait 2000 ans qu'on ne nous parlait plus du Messie. Tout d'un coup arrive un vieux juif très respectable qui commence à nous refaire le coup du Messie. Il a été terriblement critiqué par cette tendance-là. Je comprends ses peurs. Elles sont plus que justifiées. On s'est tellement fait avoir par le Messie pendant 2000 ans qu'on ne va pas recommencer. Mais ça, Aaron refuse de faire. Aaron se dit, mais d'un autre côté, on ne peut pas jeter les couches avec le bébé. Ça veut dire que l'idée, ce n'est pas parce qu'ils nous l'ont pris qu'il ne faut plus en parler. Plus encore, qu'est-ce que dit Aaron? Aaron dit, au contraire, c'est justement parce qu'on n'en parle plus que les autres ne cessent d'en parler. L'erreur de Aaron, parce que bien sûr, il y a eu une erreur de Aaron. Donc, il cautionne d'une certaine manière pour gagner du temps, comme dit Rashi, dans l'espoir de cachériser la chose, que Moshe revienne entre temps. Son erreur c'est qu'il a présumé de ses forces. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait affaire à beaucoup plus fort que lui. Les enfants de Bilham étaient beaucoup plus forts que lui. C'est ce que dit Rashi explicitement. Lui s'est dit, le temps qu'on fasse le veau d'or, ça va prendre largement 6 heures et entre temps, Moshe va revenir, parce que lui savait qu'il ne se trompait que de 6 heures. Mais il s'est fait avoir, pourquoi? Parce que eux, ils l'ont créé en quelques secondes. Ils ont jeté le pass dans le feu et tout était sorti le veau d'or. Quel est le décodage? Qu'est-ce que Rashi veut nous faire comprendre? C'est que dans l'esprit, Aaron a 100% raison. On ne peut pas rejeter la notion messianique sous prétexte que combien de faussaires l'ont falsifié. Mais d'un autre côté, ce que Aaron ne savait pas, c'est que les faussaires sont beaucoup plus forts que lui. Et il s'est fait avoir. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus encore à parler sur ça, mais je n'ai pas le temps de tout.
Il faut dire que le maître du monde, des fois, il est très sarcastique. Parce que le sixième plaie, elle s'appelle comment?
Sixième plaie, allez-y.
Shrin.
Shrin, alors? Shrin Nachash.
Shrin Nachash.
Pas mal.
En plus, les sorcières, en hébreu, on dit Menachashim. Les gens qui devinent.
Ça, c'est très beau aussi. Comment on appelle un sorcier en hébreu, biblique?
Menachash.
Un Menachash. Du mot Nachash.
Marchefa.
Non, Menachash. Pas Marchefa. Non, il y a deux mots. Il y a deux mots. Il y a Marchefa, tu as raison. Mais la sorcellerie, c'est un Nirouche. Le sorcier peut s'appeler Mechashef ou Menachash, mais la sorcellerie. s'appelle aussi un Nirouche.
Sa mère.
En plus, les vides, il y avait dans la création, il y avait Etzadat et Tovera. Ça veut dire qu'il y a toujours Tovera. On ne peut pas avoir un vide. S'il y a un vide dedans, c'est le Nachash qui est dedans.
D'accord.
C'est qui Micha exactement?
Micha, c'était un enfant juif.
Oui, mais pourquoi il est un rachat?
Comment?
C'était un rachat.
Ouais, pourquoi non, c'est tout un sujet en soi, je ne peux pas le traiter. Pourquoi cet enfant que Moshe a fait sauver ou a sauvé et finalement
pourquoi il est devenu tellement ingrat?
C'est un cours en soi. C'est, d'ailleurs, on l'a fait ce cours 10 fois. C'est un cours en soi, je ne peux pas en parler maintenant. Mais c'est un cours en soi qui existe sur le site et qu'on refera peut-être un jour. Oui.
Par rapport à Micha, on sait que dans Makat Rocher, tous ceux qui ne voulaient pas sortir d'Israël sont morts pendant Makat Rocher.
Oui.
C'est quoi le statut de Micha par rapport à ça? Il voulait lui sortir ou c'était quoi?
Alors, tu évoques un sujet que j'ai déjà traité aussi, mais qui est passionnant. Datan et Aviram sont sortis d'Égypte. Alors c'était des grands Réchaïm. Alors pourquoi ils n'ont pas fait partie des 4/5e? C'est quoi le statut méchant et gentil? On voit de là, ça a été un cours il y a fort longtemps, que en ce qui concerne la sortie d'Égypte, le méchant pouvait très bien être un gentil, mais qui ne voulait pas sortir d'Égypte. Le gentil pouvait très bien être un méchant, mais qui voulait sortir d'Égypte. Et le critère était qui veut sortir d'Égypte.
L'homme échané.
Qui veut sortir d'Égypte? C'est un sujet extrêmement puissant, ce qui veut dire qu'en vérité, dans un temps de délivrance, les méchants sont ceux qui ne suivent pas le courant. C'est ça les méchants. Pourquoi? Et je peux expliquer pourquoi. Parce que tout le monde sait que toutes les âmes d'Israël sont comme un corps. Toutes rassemblées, elles forment un corps entier en bonne santé. S'il manque un bras, une jambe à un corps, il ne peut pas fonctionner, il ne peut pas avancer. Chaque âme qui ne participe pas au projet, d'une certaine manière, ampute le corps fondamental d'Israël. Et donc, d'une certaine manière, freine ou met la bombe à retardement qui fera échouer le projet. Comme je le dis jusqu'à aujourd'hui, et je sais que je prends le risque de dire, mais je le dis et je le dis et je ne cesserai de le dire. Chaque juif qui ne nous a pas encore rejoint aujourd'hui en Eretz Israël porte la responsabilité de tout l'affaiblissement de notre nation ici en Israël et de la pression des nations contre nous. Parce que si nous étions 2 ou 3 ou 4 millions de plus ici, les nations ne se permettraient pas à notre égard ce qu'elles se permettent aujourd'hui. Et donc vous êtes responsable de notre affaiblissement et du vôtre aussi, qui sera beaucoup plus terrible que le nôtre. Si nous nous affaiblissons ici, quel juif pourra encore marcher dans la rue à Paris dans un an ou 2 ans? Et donc, ça, c'est celui qui est méchant aux yeux de la Torah. C'est très dur ce que je dis, je sais, je suis insupportable, mais c'est par amour que je le dis. Tant pis pour les coups que je reçois. C'est ça, en vérité, le critère du méchant dans un temps de délivrance. Parce que ce qui compte d'abord, c'est de reconstituer le corps. Une fois que le corps est reconstitué, alors on va le soigner. C'est la fameuse prophétie de Ézéchiel, où d'abord les os se rassemblent, après les nerfs commencent à venir, puis la chair, puis la peau. Et qu'est-ce que dit Ézéchiel? Il était encore comme un corps inerte sur le corps, sur le sol, jusqu'à ce qu'un souffle est venu et lui a redonné vie. La reconstruction d'Israël se fait étape par étape, mais d'abord on reconstruit le corps. Et qu'est-ce que veut dire le mot tzibour, communauté, en hébreu? Tzadik, tzadik, bet, benoni, ret, racha. Une communauté est formée de toutes les catégories d'Israël, même les méchants. Mais au moins que le corps soit reconstitué. Mais si on attend à Paris ou je ne sais où, que d'abord le Mashiach vienne nous chercher ou je ne sais quoi, bien sûr que ce n'est pas les vraies raisons, mais peu importe. Peu importe. Notre peuple est aujourd'hui en danger, nous sommes à nouveau dans une période où ceux qui ne se réveilleront pas vont vivre des cauchemars. Donc même si pour réveiller les gens il faut prendre des coups, c'est pas grave, je suis prêt à les prendre et je ne suis pas le seul. Mais réveillez-vous, parce que tout le monde s'affaiblit à cause de vous, et nous ici et vous là-bas. Oui.
Comment se fait-il que Moshe a été négligent pour le passe de Yosef? Et comment aussi vous avez pu oublier les mizouzot du centre? Le Nachash peut-il aussi vous attaquer? Peut-il aussi attaquer Moshe?
Moi, m'attaquer, c'est évident, il ne fait que ça du matin au soir. Moshe, ça arrive une ou deux fois en 120 ans. Je n'ai pas compris du tout le rapport avec le Shmilbi.
Non, c'est-à-dire qu'il y a une négligence qui a été faite par Moshe.
Bah, Moshe est un homme. Moshe est un homme, Baruch Hashem. Moshe, la vérité, c'est que l'histoire du passe qui lui a été volé, je ne la connais pas bien. Moi, je suis sûr qu'elle est écrite quelque part. Moi, je ne la connais pas bien. Donc, quoi qu'il en soit, et l'histoire ou pas, forcément, s'il est arrivé dans les mains de Mira, c'est que Moshe a eu un moment d'inattention. Mais c'est intéressant maintenant, je suis en train de me comprendre moi-même. Toujours la nature qui a horreur du vide. C'est toujours le même problème. Un moment de vide et hop, c'est récupéré. C'est finalement, depuis le début du cours, c'est ce qu'on est en train de dire.
C'est pour ça donc, que vous avez la fièvre, il faut le dire. C'est important ce que vous dites.
Oui, mais tout le monde ne sait pas que c'est à cause des mésouzotes. Et donc, quoi qu'il en soit, c'est exactement tout l'esprit du cours. Il y a tout d'un coup un vide, une inattention, et hop, les forces contraires viennent et elles le prennent.
L'obscurité, donc, c'est l'absence de lumière.
D'ailleurs, c'est intéressant, comment s'appelle en hébreu d'études, comment s'appelle l'endroit, si j'ose dire, dans lequel se trouve la création? Halal à panouï. Le vide, vide. Le trou vide, mot à mot. Halal, l'espace. Non, halal, le trou vide.
Libre.
Le panouï, vide, libre.
Pour en faire ce qu'on veut.
Exactement. Ça veut dire que la création. Ça veut dire que la création n'existe qu'à l'intérieur d'un grand vide. Ça veut dire que chacun y met ce qu'on lui laisse y mettre. Si c'est pas les bons qui mettent le bien, ça sera les méchants qui mettront le mal. Oui.
Vous avez dit que le Rav c'est le moteur de tout ce qui se passe sur le, pour retarder la Géoula.
Voilà, je précise. Le Rav ce n'est pas le moteur de tout ce qui est mal à l'intérieur du peuple juif. Parce que, bon, Hachem, on a du Yetzerara et à en revendre. Le Rav c'est le moteur de tout ce qui met à l'intérieur du peuple juif en péril le peuple juif. C'est pas n'importe quelle faute, c'est pas Chiloul Shabbat ou même l'idolâtrie ou la débauche, c'est pas ça. C'est toute faute ou tout comportement qui met en péril notre nation. Oui.
Alors, ça ralentit le processus.
S'il y a des juifs cachers qui tombent dans ce réchette, comme on écoute Netoué Kata aujourd'hui, on peut dire que ce sont aussi des juifs qui sont tombés là-dedans.
Bien sûr, mais non, comme le Vaudor, il y a eu plein de juifs qui y ont été après.
Maintenant, comment, je pense que ce n'est pas qu'au niveau de Netoué Kata, c'est au niveau de tout le peuple Israël qui ont aussi une petite emprise là-dedans. Comment on fait pour échapper à tout cet enchaînement?
Écoute, il y a des choses qui sont...
Tachès dans notre avoda de tous les jours, comment on fait pour se sortir de ça?
Il y a des degrés dans le Erev Rav qui sont plus subtils les uns que les autres. S'asseoir à côté, applaudir, embrasser des ennemis jurés d'Israël qui disent clairement qu'ils veulent faire disparaître des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ou qui nient la Shoah, cautionner ces choses-là, je parle des Netoré Karta, ça ne peut être que, et c'est ce que je dis, que des non-juifs déguisés ou des juifs complètement malades. De toute façon, parmi les Netoré Karta, il y a des pédophiles, il y a des homos, il y a des graves problèmes sexuels. On le connaît, il y a. Et donc, ce sont des gens qui sont complètement détraqués. Des sectes, toute la folie possible, inimaginable. On trouve toute la saleté du monde, on trouve chez ces gens-là. Donc, si c'est un vrai juif de génération en génération, c'est tout simplement un malade mental qui exprime sa maladie en cautionnant le futur assassinat de 4 millions de personnes ici en Israël. Ses propres problèmes, il les crache de cette manière-là.
Donc, on va faire au niveau de Am Israël.
Non, attends, donc je réponds encore une fois. Donc, être attiré dans ce genre de Erev Rav, de toute façon, ça ne peut être que des non-juifs, et c'est les moteurs, les chefs de ces gens-là, ou bien des malades, de vrais malades. Donc c'est plus de la compétence d'un rabbin, d'un rav, même pas d'un psychologue, c'est de la psychiatrie, c'est du grand soin, j'en sais rien. Maintenant, le Erev Rav, beaucoup plus subtil, qui sont toutes les idéologies qui, de l'intérieur d'Israël, nous affaiblissent, comme le post-sionisme ou des choses comme ça, qui finalement prônent que Israël devienne un peuple complètement comme les autres, où il n'y ait plus de religion, où on ne fasse plus la circoncision. Il y a maintenant des mouvements à l'intérieur d'Israël même qui prônent l'abolition de la circoncision, etc. Donc des choses folles. On est monté sur le bûcher pendant des millénaires pour se retrouver faire partie du même peuple que ces fous furieux. C'est la folie. Et donc c'est clair que c'est du Erev Rav, ça. Encore une fois, au niveau idéologique, je ne vais pas dire cette personne en particulier, et c'est un infiltré, mais l'idéologie, que des juifs s'attaquent à la Brit Mila, non mais attends. Ok. Donc, ça c'est déjà beaucoup plus subtil parce qu'ils ne sont pas en train de coopérer avec les véritables ennemis d'Israël. C'est déjà de l'idéologie, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus difficile. Alors je dis, face à ce genre de choses, ou le combat contre ce genre de choses, c'est tout simplement le renforcement de la Torah, de la vraie. Le problème, c'est que ça, c'est lié aussi au cours de cette semaine. La Torah, la vraie, celle qui a le Oz, elle n'a pratiquement pas de vitrine à l'intérieur de notre peuple aujourd'hui, parce que la Torah, on la connaît. C'est bon chic, bon genre, tout le monde est gentil, tout le monde il est mignon. Ou, ce qui est pire encore, ben, les méchants, ils ont qu'à crever, on ne s'occupe pas d'eux. Nous, on est à l'intérieur de notre arche de Noé, on s'est préservé, nous, notre femme, nos enfants, on a notre quartier, on a notre ghetto, on a nos écoles, et ben, que les autres, ils ont qu'à crever. Donc, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat, puisque de toute façon, ou bien on ne s'intéresse pas, ou bien il n'y a pas de combat.
Est-ce que c'est ça le rôle du judaïsme français, comme vous en avez parlé dans vos cours, par rapport à l'identité du juif français, au niveau de la révolution, c'est-à-dire de faire réveiller cette hausse de la Torah ?
Peut-être, oui, bien sûr, absolument. Le problème, c'est qu'une révolution, on ne la fait pas tout seul, il en faudrait quelques milliers.
Erev Rabbi Ivrit, on peut jouer avec les mots, c'est très sympa. Rav, c'est beaucoup. Mais si on change les lettres, c'est bar. Bar, on sait que dans les trucs, c'est le fils des Béra. Le fils, quelque chose d'Era, Erev. Ensuite, les mots Erev, comme c'est l'obscurité, c'est les Barout. On dit l'ignorance.
Là, il y a énormément de traduction possible du mot Erev. Qui font toujours allusion à l'ignorance, la méchanceté, le mal, etc. Oui.
Question d'Alderé. La clipa du Révram ne serait-elle pas aussi intéressée par l'argent, plutôt, enfin l'or par rapport au veau? On a entendu récemment des dizaines de chefs d'entreprise dire que la paix était importante pour les affaires, quitte à brader notre terre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il ne faut pas non plus tout mélanger. Non, l'idée est 100% juste, mais encore une fois. Le danger des propos que j'ai tenus, je vais faire ma propre autocritique, c'est que si on n'est pas quelqu'un d'extrêmement sage, d'extrêmement tolérant, d'extrêmement, on pourrait dire, pas fanatique, ce genre de propos, s'ils sont récupérés par n'importe qui et n'importe comment, ça va devenir la guerre des sorcières. On va chercher du Erev Rav partout, etc. Donc je profite de cette question. Je sais que c'est pas du tout, je le connais. C'est pas du tout son intention de dire ça. Mais je profite de cette question pour préciser que ce que je dis doit être pris avec énormément, énormément de pincettes, parce que si mes propos sont mis encore une fois entre les mains des cervelés qui cherchent la bagarre, on va partir encore une fois à la guerre aux sorcières, on va se retrouver comme dans les situations aux États-Unis à l'époque de la guerre froide où on voyait des communistes et des monstres partout. Donc c'est pas ça ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dénoncer un phénomène qui existe. Mais maintenant, entre la théorie et la pratique, comment ça se vit dans la réalité, je préfère dire avec beaucoup, beaucoup trop de prudence. C'est que la réponse est très importante. Aidez-le, prenez-lui son portable et éteignez-le. Et donc, avec beaucoup trop de prudence plutôt que pas assez. Je pense que dans ce genre de domaine, mieux vaut être trop prudent que pas assez. C'est très clair. Donc, ce n'est pas du tout une invitation à la chasse aux sorcières comme avec les Rosenberg en Amérique ou d'autres. Donc, quoi qu'il en soit, l'idée reste vraie. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'amalgame. C'est pas tout celui qui est prêt aussi à du n'importe quoi sur le plan politique parce qu'il s'intéresse à son ego personnel, son entreprise, son ci, son ça, que c'est forcément du Erev Rav, loin de là qu'à Dieu ne plaise de tels propos, parce que, encore une fois, la vie terrestre quotidienne a ses réalités, il faut nourrir sa femme et ses enfants, ou aujourd'hui son mari et ses enfants, et la vie n'est pas facile, et qu'il faut comprendre qu'on veut tous la paix, et c'est pas faux de dire que la totalité de l'homme est plus importante que la totalité de la terre. Il y a un peu de vrai là-dedans aussi. Il y a un peu de vrai là-dedans aussi. Quoi qu'il en soit, c'est justement parce que il y a un peu de vrai que le Erev Rav en profite pour nous détruire. Comprenez? Si déjà on parle du Erev Rav, je préférerais dans ce cas-là, encore une fois, sans citer des gens en particulier, je parle de concept. Toutes les institutions qui sont remplies d'or et d'argent par l'Europe pour ici, en Israël, faire un travail de dénonciation ou X et Y à l'intérieur pour nous affaiblir de l'intérieur, ça c'est déjà une idéologie beaucoup plus érévra, parce que mon salaire je le reçois grâce au fait que je m'occupe de délation du matin au soir. Ah, il a construit un balcon, etc. Et ces gens-là gagnent des salaires en euros inimaginables pour aller dénoncer d'autres frères. Ils ne seront jamais là pour rappeler au monde entier, bien sûr, qu'il y a plusieurs centaines de civils syriens qui sont soignés ici en Israël avec l'argent des contribuables israéliens. Ce que aucun pays au monde ne fait. Tous ces gens-là de ces associations des droits de l'homme, etc., ne rappelleront jamais qu'on est le seul pays au monde qui reçoit autant de civils syriens qui, le jour où ils seront guéris et retourneront là-bas, seront les premiers sans doute à prendre le fusil contre nous. C'est évident, on le sait, mais on les soigne quand même, et ça, personne n'en parle. C'est évident qu'il y a effectivement une association entre le veau et le fait qu'il était en or. C'est qu'effectivement, là, je vais dans le sens de sa question, il est absolument certain que le RFRA fait énormément de fric en nous détruisant de l'extérieur, puisque l'Europe, pas tous les Européens, mais l'Europe remplit sans arrêt, avec des millions d'euros, les caisses de ces associations qui, de l'intérieur, nous font du mal, comme on le sait. C'est pour ça qu'il a failli avoir un projet de loi en Israël pour interdire ces associations, parce que non seulement, je veux dire, elles gagnent, n'importe lequel gagne 10 fois plus que n'importe quel Israélien en faisant 10 fois moins, et il passe son temps à faire de la délation, et finalement, c'est de l'argent qui est utilisé pour faire mal aux Juifs.
L'antisémitisme est rentable. Hein.
Ah, mais c'est évident, mais ça on le sait. Il y a qu'à voir ce qu'on a trouvé dans ses tiroirs. Évidemment, mais ça je l'ai déjà dit. C'est évident que de toute façon il est payé pour ça. Parce que son salaire ses salaires sur la planche ne suffisent pas pour mettre autant d'argent dans les tiroirs. Donc évidemment, il est payé par des institutions qui le couvrent d'argent, c'est de l'argent noir bien sûr, donc il est dans des tiroirs, pour être le porte-parole de l'antisémitisme, lui et tous ceux qui sont avec lui, c'est absolument évident. C'est évident que c'est une histoire de business et de fric. Un juif, ça rapporte, dans un sens ou dans un autre. On est avec lui, ça rapporte, on est contre lui, ça rapporte encore plus. Mais le juif, c'est que du pognon pour eux. Donc, c'est que ça. Ok, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.